CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour tout le monde, bienvenue 2 février. On est à la veille d'une période de froid intense. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous serez bien à l'abri au cours des prochains jours parce que vraiment, il ne fera pas très chaud. Mais ça m'a amené ce matin à penser qu'il y a peut-être d'autres mondes qui n'ont pas la chance qu'on a d'être à l'abri quand il fait très froid. Et vous savez, la situation des personnes itinérantes à Sorel-Tracy au cours des dernières semaines avait ému beaucoup de monde. Puis il y a eu des gros efforts qui ont été faits. La ville de Sorel-Tracy, le député Jean-Bernard Raymond avait soutenu la Porte du Passant qui hébergeait 3 nuits par semaine les itinérants, mais grâce à ce soutien financier-là, a pu réussir à ouvrir le centre d'hébergement 7 nuits par semaine. Ce matin, j'ai placé un petit coup de fil à Marie-Josée Avril, la directrice, qui m'a appris, puis je suis très heureux de vous le partager, qu'exceptionnellement, compte tenu de la période de froid intense, les employés sont mobilisés pour ouvrir le centre dès 17h vendredi en fin d'après-midi et il va être ouvert continuellement jusqu'à dimanche soir. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle pour tout ça. Puis ça nous rappelle peut-être simplement combien c'est important d'avoir du financement pour 7 nuits pour la Porte du Passant, d'autant plus quand on a des froids extrêmes. Je pense que vous et moi, on n'aimerait pas passer la nuit dehors quand il fait ce temps-là. À l'émission d'aujourd'hui, 4 mois après les élections québécoises du 3 octobre qui ont élu Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, pour un deuxième mandat avec 56% du vote, on va donner la parole à 3 candidats qui n'ont pas été élus, mais qui, à eux trois, Gabriel Arpin du Parti québécois, David Dionne de Québec solidaire et Marie-Ève Dionne du Parti conservateur du Québec, ont quand même été appuyés ensemble par 40% des électeurs. Ces candidats-là, ils ont en commun d'être relativement jeunes. Ils étaient candidats pour la première fois. C'est intéressant de constater l'engagement politique de ces jeunes-là. C'est normal, vous savez qu'on a entendu le député élu régulièrement dans nos médias. C'est lui qui est élu, c'est lui le député. Mais c'est intéressant aussi de donner la parole à ces personnes de la région qui ont porté les couleurs des partis d'opposition. Et on a envie de les entendre aujourd'hui pour qu'ils nous partagent leur expérience puis aussi leur lecture de la situation politique actuelle dans le comté puis au Québec. On se retrouve après la pause.
Tu souhaites retourner aux études pour obtenir ton diplôme d'études secondaires ou pour faire un DEP? Les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy sont là pour toi. Viens nous rencontrer aux portes ouvertes jeudi 2 février de 13h à 20h. Pour plus d'infos, communique avec nous par téléphone ou visite notre site web et nos médias sociaux. Ce vendredi midi, à 2, c'est mieux. Au menu.
En direct du restaurant La Bouffe Tifaille, je reçois cette semaine la chanteuse Laurence Jalbert. Venez nous voir.
CJSO.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on entreprend cette série de rencontres aujourd'hui avec des ex-candidats aux élections du mois d'octobre dernier. Gabriel Arpin est arrivé le deuxième dans Richelieu avec 20,28% des voix. En gros, il a fait mieux ici que le Parti québécois qui a récolté au total autour de 15% pour l'ensemble du Québec. Bonjour et bienvenue, Gabriel Arpin.
Bonjour, bonjour.
C'était une première expérience comme candidat.
Oui.
En plus, dans une élection québécoise. Quelle marque est-ce que cette campagne électorale-là a-t-elle laissé sur vous?
Il y en a plusieurs, en fait. C'est sûr que ça a été vraiment... J'ai réalisé à quel point c'était un don de soi de se présenter dans des élections. Ça prend beaucoup de temps, mais non seulement pour moi, mais les gens qui m'entourent et qui m'ont aidé tout au long de la campagne. J'ai eu une chance d'avoir une équipe incroyable. Donc, c'est de voir à quel point il y a des gens qui sont passionnés par la politique et sont prêts à faire des dons de soi pour la politique québécoise. Donc ça m'a vraiment impressionné. J'ai eu la chance d'être bien encadré. Puis ça m'a fait aussi réaliser que la politique, que ce soit québécoise ou canadienne ou internationale, c'est assez difficile. Parce que c'est pas parce que nous, on pense que c'est la direction qu'il faudrait prendre que les gens sont nécessairement d'accord avec nous. Donc il faut dealer, si vous me permettez l'anglicisme, avec ça un peu, essayer de convaincre les gens, mais pas être trop insistant parce que tout le monde a le droit à leur opinion. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir un balan à travers tout ça.
Ben, c'est intéressant. Est-ce que le fait de parler avec des électeurs potentiels, des gens à qui vous demandiez un appui, est-ce que ça a changé des choses dans votre façon de voir les dossiers en cours?
Oui, c'est sûr que oui. Puis... En fait, il y a plusieurs dossiers que moi, je voyais d'une certaine perspective parce que j'ai fait mes études à l'extérieur. Puis là, ça va faire près de 2 ans et demi que je suis de retour à Sorel. Donc, j'avais peut-être une perspective plus d'extérieur. Mais quand tu reviens avec des gens qui sont restés ici depuis les 40, des fois 60 dernières années, il y a une perspective différente. Donc, c'est important de se remettre en question, en fait, quand tu parles à ces gens-là. Puis de prendre le temps de les écouter. Puis c'est pas nécessairement parce que t'es pas d'accord avec leur point de vue que tu peux pas en tirer quelque chose de positif. Fait que je pense que c'est ça qui est l'exercice difficile à faire, puis d'être assez humble pour être capable de le faire, c'est de dire « Bon, moi, j'ai des idées à cause que j'ai construit ça sur telle chose, puis ces gens-là vont construire eux sur d'autres choses. » Donc, c'est d'essayer d'en prendre de notre opinion, puis de prendre de
leur... Y a-t-il des sujets en particulier où vous vous dites, là, vraiment, là, j'ai appris des choses là, pendant la campagne?
Beaucoup sur l'aspect municipal. Moi, j'ai fait mes études en études internationales, donc c'est sûr que j'avais plus l'aspect macro des choses. Je voyais les choses avec un œil un peu plus niveau international, comment faire régner le Québec au niveau national, au niveau canadien, puis au niveau international.
Ouais.
Mais là, en parlant avec les gens qui sont ici, qui sont beaucoup impliqués dans le municipal, ça m'a fait réaliser que le municipal est aussi, sinon des fois, plus important que le national puis l'international. Donc ça, c'est sûr que c'est un aspect que j'ai gardé en tête beaucoup au cours, tout au long de la campagne.
La majorité de la population est évidemment à Sorel-Tracy. Ouais. Il y a aussi de la population en milieu rural. Vous avez vu ça comment, la réalité autant urbaine là, à Sorel-Tracy, à 80 km de Montréal ou à peu près, nos municipalités rurales, l'agriculture, est-ce que... Parce que je sais, il me semble d'avoir entendu que vous connaissez un peu le monde de l'agriculture, là.
Oui, effectivement. Ça, c'était moins difficile pour moi parce que j'ai un grand-oncle qui a encore une ferme familiale, que ça fait environ 125 ans qu'on a dans la famille. Donc, je fais les sucres à chaque année. Au mois de mars, je vais aider à entailler. Il habite à Saint-Tour, j'ai grandi à Sainte-Victoire. Donc, tout ce côté-là un peu plus rural, ça m'était beaucoup plus familier. Puis, ça m'est encore familier parce que je m'implique encore avec la ferme familiale, même si on n'a plus de tête de bétail. Mais donc, ça, ce milieu-là était plus familier pour moi, mais c'est vraiment plus la scène comme politique municipale, puis les décisions plus municipales qui étaient un petit peu moins familiers, mais que j'ai pris le temps et avec beaucoup de plaisir de me familiariser.
La campagne dans un comté, elle est évidemment tributaire de la campagne nationale.
Ouais.
On sait très bien que les électeurs, s'ils choisissent un député dans Richelieu, ils choisissent aussi quelque part un premier ministre. Ils regardent les chefs de parti, puis ça joue dans leur décision. Vous avez vécu ça comment? Comment faire le lien entre la campagne qui se passe ici, puis là, vous parlez de préoccupations locales, puis ce qui se passe au palier national?
Ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez difficile au niveau personnel suivant la campagne. Je vais être honnête avec vous, parce que M. Legault a une certaine notoriété, on s'en cachera pas. Dans les sondages, il est encore de loin le plus aimé des politiciens au Québec. Donc, c'est sûr que ça aide quand tu te présentes pour la CAQ, d'être élu, tu sais, on se mentira pas. J'enlève rien à Jean Bernard, mais c'est un plus. Au contraire, moi, j'avais un chef de parti qui gagne à se faire connaître, que les gens apprécient de plus en plus, mais que lors de la campagne, il était beaucoup moins connu et même un peu moins aimé parce que les gens le connaissaient peu. Il disait qu'il n'était pas impliqué sur la scène, etc. Il n'était pas à l'Assemblée nationale, donc c'était dur pour lui de faire image. Donc, alors que Jean-Bernard bénéficiait d'une image grandiose qu'on a vue depuis 2 ans sans arrêt tous les midis avec la COVID, moi j'avais quelqu'un qui est formidable, comme on le voit en ce moment, il fait bouger les choses, notamment avec le serment au roi, mais qui était peu connu.
Au début de la campagne.
Au début de la campagne, exactement. Donc c'était quelque chose que je pensais pas qu'il allait créer une certaine frustration, mais que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus d'impact qu'on peut penser. Justement, là, suite aux élections, il y a eu des discussions par rapport à réformer le mode de scrutin, pas dans son entièreté, mais un peu plus pour que ce soit un peu plus proportionnel. Parce que si je me trompe pas, là, je veux pas dire des chiffres erronés, mais le PQ, le Parti conservateur, puis le Québec solidaire ont eu environ 43% des voix. Ils ont eu, si je me trompe pas, quelque chose comme 16 sièges environ. Là, mes chiffres sont pas parfaits, mais c'est dans ces eaux-là. Et la CAQ a eu environ 41% des voix totales et a eu quelque chose comme 90 sièges. Donc, tu vois qu'il y a une disparité énorme par rapport au vote. Et je pense que ça, on va le voir de plus en plus au Québec parce qu'il y a de plus en plus un Québec multipartiste qui était à l'époque beaucoup Parti québécois libéraux. Donc, on voyait
tous ceux qui ont grandi dans les années 70, exact. 80, 90, de l'époque du référendum, c'était deux grands partis, exact. Le Parti québécois et le Parti libéral qui s'affrontaient. Donc, on était soit pour un, soit pour l'autre,
oui,
de façon
exactement.
Générale.
Exactement. Puis notre mode de scrutin dans un modèle de bipartiste, ça paraît moins. Mais là, maintenant qu'il y a 3, 4, même 5 partis qui sont quand même assez bien représentés, ben là, ça crée des problèmes, comme on a vu dans les élections.
Je vous rappelle que je reçois l'ex-candidat du Parti québécois en octobre dernier, Gabriel Arpin. Le Parti québécois, on vient de le dire, là, il y a eu une époque, d'abord, évidemment, le Parti québécois a gouverné pendant de très nombreuses années, à plusieurs étapes, avec plusieurs premiers ministres. Là, le PQ est arrivé 4e en octobre. Ouais. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer autant de la situation, puis on peut peut-être regarder dans le comté aussi, là, qu'est-ce que ça veut dire pour le comté? Vous êtes arrivé 2e, mais évidemment, au Québec au complet, le Parti québécois est arrivé 4e. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir selon vous?
Je pense que c'est important aussi de dire que le Parti québécois est arrivé 4e, mais dans les régions, on pourrait vraiment dire qu'il est arrivé 3e, parce que bon, le Parti libéral est arrivé 2e, mais c'est grâce à Montréal. Ça n'enlève rien, mais bon, le Parti libéral n'est pas vraiment arrivé 2e dans les régions. Après, je pense que le Parti québécois avait beaucoup de questions à se poser. Puis je l'ai mentionné plusieurs reprises au cours de la campagne. Puis je pense que les trois...
Comme quel genre de questions?
Le Parti québécois était un peu à recherche de lui-même, un peu. Tu sais, je veux dire, il y a eu des questions qui ont déchiré le parti en 2012, après en 2016. Puis là, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs assemblées générales où on a pris des mesures pour aller retourner un peu plus aux racines du Parti québécois.
J'étais pour vous demander, qu'est-ce qui vous motive? D'abord, pour commencer, est-ce que vous entendez poursuivre votre engagement envers le Parti québécois, à l'intérieur du Parti québécois? Puis qu'est-ce qui vous motive à le faire si c'est le cas?
Moi, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, les gens qui m'ont aidé tout au long de la campagne, c'est des gens formidables, puis j'ai l'intention de m'impliquer encore avec eux au cours des prochaines années. Sinon, je serais pas ici. mais ce qui me motive, en fait, c'est que je pense que le Québec, je l'ai dit aux dernières élections, mais je pense que c'est encore vrai, le Québec est à la croisée des chemins, puis je pense que c'est important de donner aux électeurs une option différente de l'option qui est la tendance un peu néolibérale, caquiste libéral qu'on a beaucoup, même les libéraux au national puis les conservateurs sont dans ce côté-là. T'sais, on a été influencés beaucoup par la culture américaine qui tendance beaucoup à privatiser. T'sais, on l'entend, la CAQ l'a proposé, privatiser le système de santé. C'est pas ce qu'ils disent, mais ils disent qu'on va créer quelques tests d'hôpitaux privés, voir comment ça va. On sait où ça mène, ça. Donc, c'est pas un chemin que je veux prendre. T'sais, j'arrive de l'Europe, justement, où je suis allé en Espagne. Puis là-bas, il n'y a pas vraiment de questions sur la privatisation des soins de santé. T'sais, on voit qu'on est beaucoup influencé par la culture américaine, même si c'est pas quelque chose qu'on réalise à tous les jours. Puis je pense que c'est important comme culture au Québec de garder notre vision de permettre à tous d'avoir accès aux soins de santé, permettre à tous d'avoir accès à l'éducation, sans se poser de questions, sans avoir d'inégalité sociale. Donc moi, c'est un débat que je veux mener, puis j'espère que les gens veulent aller dans cette direction-là, mais c'est à eux de décider après, mais moi, c'est pour ça que je veux continuer à m'impliquer dans le parti.
Les sondages de dernière semaine, entre autres, il y a eu un sondage important là, de l'actualité, si je ne me trompe pas, là, dans l'actualité, qui laisse croire à une remontée du Parti québécois dans les intentions de vote. Oui. Vous l'attribuez à quoi? Et puis, comment voyez-vous l'avenir du chef, Paul Saint-Pierre Plamondon?
Bien, je pense qu'il a fait des grands débuts, en fait. Justement, cette semaine, on a assisté à la première fois de l'histoire du Québec où des élus siègent à l'Assemblée nationale sans avoir prêté serment au roi ou à la reine. Donc, il fait bouger les choses. T'sais, Québec solidaire en avait parlé qu'ils voudraient le faire il y a 4 ans. Ils se sont fait dire non. Ils ont dit OK. Puis là, c'est la même chose. Il avait dit qu'il allait supporter le Parti québécois dans ce mouvement-là. Finalement, ils se sont retirés, mais en gardant espoir et en travaillant fort, ben Paul Saint-Pierre a réussi à le faire finalement. Donc, je pense que les Québécois apprécient ça, même si t'es pas pour le Parti québécois. Je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient, c'est que il a dit qu'il allait faire quelque chose, il s'est fait dire non, il a tenu son bout, puis il a réussi au final à avoir gain de cause.
Dans le comté, comment vous voyez les choses actuellement? Par exemple, est-ce que les gens qui vous ont accompagné là, dans votre équipe de militants, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils ont envie de poursuivre? Est-ce que la situation fait en sorte que ce soit un peu motivant de continuer à promouvoir ce qui est important pour vous,
ben,
pour le Parti québécois?
Honnêtement, oui. Puis même, je vous dirais que c'est... Étrangement, même pour moi, je ne m'attendais pas à ça nécessairement, mais les gens sont aussi, sinon plus, motivés qu'à la fin de la campagne. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement, comme je disais, Paul Saint-Pierre gagne à se faire connaître, puis je pense que les gens sont inspirés d'avoir un chef qui fait bouger les choses. Donc non, les gens sont très motivés.
Votre relation avec les gens, avec les citoyens là, que, oui. au quotidien, là, c'était comment? Comment sont les gens quand vous les approchez? Parce que vous ne connaissez pas tout le monde à qui vous parlez,
non,
évidemment. Là, comment ils vous reçoivent?
Ben, ça dépend, en fait. Il y a des gens qui sont pas très politisés, puis c'est bien correct aussi. Puis il y a des gens qui... En fait, ce que je voulais dire, c'est pas très politisé, c'est par des gens ça intéresse pas. Donc ça, c'est ça leur appartient aussi. Donc, ces gens-là, ils s'intéressent au fait que je me sois présenté, ils me posent des questions, mais ils n'ont pas vraiment de parti pris. Sinon, c'est rare que je rencontre des gens qui me disent « Hey, moi, j'ai voté CAQ ». Ça arrive avec les libéraux, parce que le dualisme existe depuis longtemps, donc ils disent « Non, moi, je ne suis pas PQ, je suis libéral ». On dirait que c'est plus ancré dans l'historique, mais c'est rare que j'ai rencontré des gens qui disent « Moi, j'ai voté CAQ ». Pour quelles raisons, je ne peux pas vraiment expliquer moi-même. Mais les gens, en général, ils sont toujours... Si j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voté pour moi, ils me disent qu'ils sont intéressés, puis ils demandent des informations. Puis s'ils ont voté PQ, là je le sais. Là.
Mais les gens sont sympathiques de façon générale?
Oui,
quand
oui,
vous les approchez.
Les gens sont très sympathiques. Et, en fait, puis moi-même, quand les gens n'ont pas voté pour moi, ou s'ils ont voté CAQ, ou s'ils ont voté libéral, ou peu importe, ou Québec solidaire, moi, je suis intéressé de discuter avec eux parce que c'est ces gens-là aussi qu'il faut que j'aie leur avis parce que c'est les gens qui ont des idées différentes aux miennes qui vont faire que je vais comprendre qu'est-ce que les gens veulent, puis eux qui vont comprendre mes idées. Donc, c'est important, je parle avec eux aussi.
Merci beaucoup, Gabriel Arpin, qui était le candidat du Parti québécois lors des dernières élections.
Ça fait plaisir.
David Dionne, le candidat de Québec solidaire, a obtenu 10 % des voix pour sa part. Les analystes s'entendent pour dire que la campagne a peut-être été un petit peu difficile pour Québec solidaire à l'automne. Mais comme les autres partis, ils ont 4 ans devant eux pour remonter la pente, on en jase après la pause.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel présente chaque vendredi à 6h45 la chronique de l'Association étudiante du Cégep de Sorel-Tracy. Apprenez-en plus sur les activités du Cégep, sur les rencontres sportives, sur les programmes offerts ou sur les différentes rencontres étudiantes. Vivante et dynamique, l'Association étudiante du Cégep de Sorel-Tracy s'exprime sur les ondes CJSO. Soyez du rendez-vous tous les vendredis. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel.
Allons ouvrir la boîte à musique. CJSO saura vous surprendre. Les samedis et dimanches, de 9h à 11h, Duc de Lombourg vous convie à un fascinant rendez-vous musical. La boîte à musique. CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu jusqu'au 22 février, profitez de notre promotion sur les ensembles de cuisine Whirlpool et Maytag. Achetez deux électroménagers de cuisine admissibles et économisez 200 $ additionnels. Chez Meubles André Beaulieu, on vous aide à passer à travers le mois de février à coups de promotion. Lors de votre prochain achat d'un matelas Mirabel, nous incluons les taxes et nous vous offrons un couvre-matelas gratuit. Venez rencontrer nos spécialistes qui seront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, mon invité maintenant, c'est David Dionne. Il était le candidat de Québec solidaire à l'automne dernier. Alors, le temps a passé depuis la fébrilité de la campagne électorale. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là qui, si je ne me trompe pas, était une première pour vous?
Tout à fait, oui. Bien, tout d'abord, merci de m'accueillir ce matin à la station. Bien, je pourrais honnêtement m'étaler de long et en large sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Chose certaine, c'est que ça a été une expérience enrichissante. Vraiment, ça a été une occasion de connaître davantage les gens de la grande région de Sorel, d'où je viens, où j'ai grandi. Alors, c'est toujours... fascinant de constater les différences, la pluralité des réalités. Je l'ai répété souvent, moi, ça a été vraiment... je suis tombé en amour à nouveau avec ma région là, à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire, les discussions que j'ai eues avec les gens.
Votre bilan de campagne, quand vous regardez, avec votre monde, là, avec vos militants, vous aviez évidemment une équipe qui vous accompagnait là-dedans. Je pense que tout le monde sait que les candidats, ils ne sont pas seuls quand ils font campagne, ils sont avec plein de monde. Vous retenez quoi de cette expérience-là avec les militants, par exemple?
Bien, avec les militants, chose certaine, c'est qu'on a vu vraiment un nombre grandissant de militants, de gens qui se sont joints à nous, plus spécifiquement ici dans Richelieu. Le bilan comme tel, bien, je vais être franc avec vous, on est encore en train de l'écrire, encore en train d'en discuter. On aura l'occasion d'ailleurs très bientôt de s'entretenir, de se rencontrer aussi pour recueillir vraiment le témoignage des gens qui ont été concernés par cette campagne. Voilà.
Je le disais dans l'introduction tout à l'heure, avant de passer à l'entrevue, il y a 4 ans devant vous. Vous avez 4 ans devant vous. Normalement, les élections sont à date fixe au Québec maintenant, là, donc on sait que les élections devraient avoir lieu normalement en 2026. Vous voyez quoi comme plan de travail pour Québec solidaire dans le comté de Richelieu? Et peut-être que je devrais vous demander d'abord, est-ce que vous souhaitez continuer à vous engager à l'intérieur de cette formation politique-là?
Tout à fait. On compte naturellement être présent pour les 4 prochaines années. On se tient au courant, on va rencontrer les acteurs du milieu. Puis il faut dire aussi qu'on a, avec le national, un lien privilégié où est-ce qu'on a l'occasion de discuter. C'est pas... c'est comment dire... on a la chance d'avoir un parti qui est pas... je cherche l'expression anglaise, mais tu sais, de haut en bas. C'est vraiment possible de contacter les députés, de contacter des gens au sein de l'organe du parti pour avoir des discussions, pour les informer de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, ça va être très payant pour nous.
Je vais vous m'amener à un endroit où je voulais aller, effectivement. On voit beaucoup de... Évidemment, c'est le début de la session parlementaire cette semaine, donc les médias, globalement, ont beaucoup parlé de la situation de chacun des partis. On a vu aussi un de vos co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, je pense que c'est votre chef parlementaire à l'Assemblée nationale, il y a des questions qui se posent, il y a des remises en question saines et normales dans n'importe quel parti politique. Là, c'est des choses tout à fait logiques et normales à faire. Et la question de les régions... par rapport aux grands centres urbains, parce qu'on voit que les députés de Québec solidaire, quelques-uns à Québec, surtout à Montréal, Sherbrooke, donc plus en milieu urbain, une contribution des militants de Québec solidaire du comté de Richelieu, là, de la région de Sorel-Tracy, ce sera quoi dans la réflexion du parti à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait... Je repose ma question,
Allez-y.
Qu'est-ce qui fait que dans 4 ans, Québec solidaire pourrait être encore plus près des préoccupations des gens qui sont en région, par exemple?
Il faut dire que pour les 4 prochaines années, ce qu'on va continuer de faire, ça va être de parler de la crise du logement, puis, qui est loin d'être terminée, on s'entend. Quand on voit les chiffres, encore, on a raison de s'inquiéter. Juste ici, en région, on parle de taux d'inoccupation là, des logements de 0,4%.
Très faible, très faible, oui.
Épouvantable. Alors, ces sujets-là, c'est sûr que de façon, au niveau national, ben, tu sais, on a des enjeux communs, ça c'est bien entendu, mais ici, dans Richelieu, on va s'attarder notamment, bon, on parle beaucoup en ce moment de déboisement, de la façon dont on développe le territoire, la crise environnementale aussi, qui va demander des gouvernements aussi des investissements majeurs, qui doivent être, parlons de la CAQ par exemple, qui refusait de donner la possibilité aux municipalités d'avoir un fonds pour justement être en mesure de contrer
d'acheter,
les effets.
D'acheter les espaces boisés, par exemple, c'est ça
réalité,
que vous faites référence?
En réalité, c'est que, bon... oui, d'une part, là, j'étais justement la semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines, à l'Assemblée, à la consultation publique, en fait, sur le développement à Saint-Robert. Fort intéressant, d'ailleurs, j'ai pu entendre des gens...
Pour le plan, la démarche que fait la MRC pour le plan sur les milieux naturels.
Exactement, voilà. Puis je trouve ça intéressant parce que faut ramener les choses dans la globalité, dans leur globalité, parce que c'est pas du cas par cas. Tu sais, l'environnement, c'est un sujet qu'on doit aborder de façon... C'est complexe. Et j'en conviens, on avait 65 mesures dans notre plan environnemental, dans notre plan de transition écologique. C'est certain que c'est pas simple, mais il faut... c'est du travail acharné, c'est du travail de tous les jours, puis je pense que les gens, maintenant, nous voient aussi comme le parti de l'écologie, puis c'est important. C'est un beau gain qu'on a fait.
Vous avez l'impression que quand les gens votent pour vous ici, là, quand vous êtes promené et que vous avez parlé avec les gens, quand ils vous disent « oui, moi, c'est Québec solidaire que j'appuie », c'est pourquoi? Qu'est-ce qui était la principale raison, si vous voulez, de cet appui-là?
Ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on se bat énormément pour conserver nos acquis au Québec, pour conserver notre modèle québécois. Puis là, quand je parle de ça, je parle de la santé notamment. On le voit de plus en plus. La CAQ, l'orientation, c'est la privatisation des soins de santé. Quand on parle d'environnement, ben, on vit quand même dans une région qui est assez polluée. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense avoir suffisamment tapé sur le clou, mais parlons-en de la pollution au centre-ville, par exemple, qui est un dossier qui est loin d'être réglé. Ça, notamment, c'est un truc qu'on va devoir surveiller de près. Lorsque les gens, on leur a proposé un plan pour contrer les effets pervers de la crise du logement, quand on leur a parlé du coût de la vie, on avait des mesures vraiment, je pense, ambitieuses qui auraient grandement aidé le portefeuille des gens. Quand on parle, par exemple, du salaire minimum, on s'entend là, qu'il va augmenter là, au mois de mai à 15,50, je veux dire, à 18 $ de l'heure. Le premier ministre a reconnu que c'était difficile de vivre avec 40 heures semaine à 18 $ de l'heure.
Oui, pour une famille, là, ouais, c'est sûr.
Fait que les gens, quand on leur parle de gros bon sens, là, les gens, je pense que notre programme était... rempli de bon sens.
Je suis très heureux d'accueillir David Dionne, qui était le candidat de Québec solidaire dans la région aux dernières élections. La possibilité pour vous de poursuivre le travail avec les gens, l'élargissement, par exemple, de la base militante, des choses comme ça, comment vous voulez vous y prendre pour aller chercher de nouveaux adhérents? Par exemple, quelles sont vos ambitions pour les prochaines années?
Bien, chose certaine, c'est que le travail qui sera fait au national va nécessairement impacter, dans le fond, l'intérêt que les gens vont porter à notre parti. En ce sens-là, depuis la fin des élections, on a vraiment observé qu'on a beaucoup plus de sympathisants, de gens qui nous contactent directement pour s'impliquer, dans le fond, activement. Ça, pour moi, c'est une réussite. C'est déjà là le signe déjà d'une victoire. Là.
Il y aura une élection partielle très prochainement, oui. En fait, au cours des prochains mois. C'est le premier ministre, évidemment, qui va déclencher la date de l'élection dans le comté de Saint-Henri, Sainte-Anne, quelque chose comme ça.
Exact.
À Montréal, c'est le quartier du sud-ouest, là, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, une partie de Verdun, etc. On voit dans les médias que c'est une ambition que vous avez de remporter ce comté-là, où vous étiez arrivé deuxième en octobre. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vos militants suivent?
Absolument.
Parce que ça va être une bataille politique qui va être significative, parce que c'était le comté de la chef libérale, Mme Anglade.
Tout à fait.
Et là, on peut voir que c'est une vraie course, là. On sent que c'est une vraie course là-bas.
Bien, on aura l'occasion, justement, ici, dans Richelieu, de prêter main forte à la campagne de Guillaume Clich-Rivard, qui, justement, est un candidat vraiment formidable, qui est un avocat, il faut dire aussi, qui travaille pour les droits, en, notamment en immigration. Vraiment un curriculum incroyable, une personne de grande qualité, et c'est certain qu'on va être derrière lui, là.
Votre regard sur les gens d'ici, parce que, tu sais, on a tendance, évidemment, comme de raison, comme parti politique, à regarder les grands enjeux. Puis là, tout à coup, on se retrouve sur le terrain, puis on serre des mains, puis en fait, on serre plus ou moins des mains parce qu'on est encore en pandémie, là, mais on voit les gens, on sourit aux gens, on les approche. Est-ce que votre regard sur les gens, sur ce que les gens vivent au quotidien, a changé avec la campagne?
Tout à fait. Faut dire une chose, c'est que nous, on est là pour représenter un parti, on est là pour représenter, là, dans les élections, on a une plateforme complexe. Quand c'est comme un peu la partie théorique versus la partie pratique. T'sais, effectivement, qu'on arrive avec des idées, c'est important d'avoir la sensibilité, d'avoir l'écoute pour voir comment tout ça peut s'articuler, comment ça peut réellement comment on peut changer les choses positivement, en quoi moi je peux aider Richelieu avec les idées que Québec solidaire propose. Je vais être franc avec vous, moi je viens d'ici. Je viens pas d'un milieu aisé, j'ai côtoyé plein de gens de différents milieux. Je suis très sensible à des thèmes comme justement les inégalités sociales, la crise du logement. Ce qui m'a frappé le plus, c'est de constater à quel point la situation était dramatique. Moi, quand j'entends des gens dire « moi, ça coule dans mes murs chez nous, je paye 500$, mon propriétaire m'a dit « ben, vis avec, moi, mon balcon, il est pourri, puis regarde, j'en fais pas un cas », des histoires d'horreur, des histoires de violence domestique, des histoires, tu sais, il y a ici, dans notre région, un bassin de population qui vit de grandes difficultés, qui a grandement besoin d'aide. Puis même en étant conscient de tout ça, j'ai été vraiment marqué par le niveau de détresse, la détresse des gens qui vont dans les hôpitaux quand on est à 204% d'occupation, les gens qui tombent malades. Tu sais, le filet social, je pensais pas qu'il était à ce point-là dégradé dans ma région. Puis ça, c'est qu'est-ce qui m'a frappé le plus.
On dit souvent qu'il y a des concepts auxquels on peut adhérer. Par exemple, la lutte à la pauvreté, de façon générale, au Québec, on essaie de trouver des solutions. Mais on n'est pas tous conscients de la réalité des gens qui la vivent, cette pauvreté-là. Et étant moi-même un ancien élu, on est des fois confronté à des réalités qu'on voit aussi en campagne électorale. C'est quand même intéressant je pense que c'est intéressant pour les gens qui veulent s'engager en politique, d'avoir la chance de côtoyer puis de comprendre un peu mieux les enjeux que les gens, là, les gens autour de nous, nos voisins, nos familles, etc., vivent de façon quotidienne. Devant nous, là, il y a quand même du temps pour regarder les choses. Ça m'intéresse le fait que vous dites que vous êtes en lien avec le national, avec l'équipe autour des députés. Ça veut dire qu'il y a aussi une contribution dans la réflexion que vous autres, vous allez amener aussi au parti?
Tout à fait. On a déjà eu l'occasion de le faire. En fait, là, on a eu des rencontres ponctuelles. Tous les gens qui étaient intéressés à faire, tous les candidats étaient donc invités à se prononcer justement sur ce qu'ils avaient observé sur le terrain, de sorte à favoriser le dialogue, puis justement d'être au diapason. Comme tout parti, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des réflexions à faire. Il ne faut jamais prendre rien pour acquis, puis il faut travailler fort aussi pour justement être capable de représenter au mieux les gens qu'on veut représenter.
David Dionne, ex-candidat de Québec solidaire, et on comprend qu'il est toujours militant de ce parti-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Après la pause, Marie-Ève Dionne nous a surpris lors de la dernière campagne en réussissant à atteindre 8% dans le comté pour le Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'il y a un espace pour ce parti, le parti d'Éric Duhaime dans Richelieu? On regarde ça ensemble après la pause.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.
www.pierredesorel.co.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 22 février, profitez de notre promotion sur les ensembles de cuisine Whirlpool et Maytag. Achetez deux électroménagers de cuisine admissibles et économisez 200 $ additionnels. Chez Meubles André Beaulieu, on vous aide à passer à travers le mois de février à coup de promotion. Lors de votre prochain achat d'un matelas Mirabel, nous incluons les taxes et nous vous offrons un couvre-matelas gratuit. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
Notre dernière invitée aujourd'hui, mais non la moindre, Marie-Ève Dionne, qui était la candidate du Parti conservateur du Québec lors de la dernière élection. Je vous l'ai dit, elle a fait autour de 8 % Marie-Ève Dionne, bonjour. Merci de prendre quelques minutes dans votre journée de travail pour vous joindre à nous ce midi.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça va bien, vous aussi?
Oui, ça va très, très bien. Comme mes deux autres invités aujourd'hui, c'était une première expérience, si je me trompe pas, là, comme candidate à une élection. Vous avez vécu ça comment, vous, être candidate dans une élection québécoise?
Oui, c'était ma première... Oui, c'était ma première expérience. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le contact avec les gens. Je trouvais que les gens avaient un bel accueil. Ils étaient ouverts aussi à écouter ce qu'on proposait. Puis oui, j'ai bien aimé mon expérience, vraiment.
Avez-vous eu l'occasion d'arpenter pas mal tous les espaces du comté? Avez-vous pu rencontrer des gens un peu partout sur le territoire?
J'ai fait mon possible pour ça, mais honnêtement, c'est ça, moi, je travaillais comme à temps plein en même temps, donc j'ai fait mon possible pour faire le maximum avec le temps que j'avais. Mais si c'était à refaire, j'aimerais ça prendre plus le temps d'être sur le terrain là, pour la prochaine fois.
Bien, justement, je souhaitais vous demander, Marie-Ève Dionne, quel est votre lien aujourd'hui avec le Parti conservateur du Québec? Vous y étiez déjà militante quand vous avez été choisie candidate?
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond... mon conjoint aussi suit beaucoup la politique, donc tu sais, on est souvent en train d'en parler, puis là on s'est dit pourquoi pas, tu sais, fait que ouais, je me suis lancée, puis j'ai pas regretté, j'ai bien aimé mon expérience honnêtement.
Est-ce que vous gardez des liens avec le Parti conservateur actuellement?
Oui, M. Duhaime m'a contacté dernièrement. Il veut revenir pour faire une espèce de postpartum de ce qui s'est passé.
OK, donc vous allez avoir l'occasion de...
Je crois que je vais manquer de batterie. Je vais juste aller... Je suis désolée, hein, monsieur.
vous aurez compris que Marie-Ève Dionne a accepté au téléphone parce qu'elle est effectivement au travail là aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu l'occasion... D'abord, pour commencer, est-ce que vous étiez entouré d'une bonne équipe de militants dans le comté? Ça s'est passé comment dans le concret là, de cette campagne-là pour le Parti conservateur? Parce que, je le répète, là, vous, avec 8 % c'est évidemment beaucoup plus que ce que le Parti conservateur avait jamais eu dans le comté, comme de raison. Vous aviez quoi comme équipe autour de vous?
Bien, pour être honnête, l'équipe était très petite. Là. Au début, on a installé les pancartes. On était moi, mon conjoint, puis mon ami, un de mes amis de gars, là, si on veut. Donc, on avait une très petite équipe. Donc, c'est sûr que ça, c'était plus difficile aussi. Là, t'sais. C'est pas qu'il y avait pas beaucoup de militants, mais on avait une petite équipe. T'sais, il aurait fallu comme avoir l'association plus forte là, pour avoir de meilleurs résultats, je pense. Là. T'sais, c'était quand même difficile vu que c'était petit comme équipe, mais pour vrai, on a fait avec les moyens du bord, puis ça a quand même bien été. Je suis satisfaite.
Je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Vous avez obtenu à peu près la même chose que les autres partis d'opposition, là, autour de 13 %. Là, vous n'êtes pas une grosse différence entre ceux qui ont obtenu 13, 14 puis 15 %. Oui. Donc, vous avez des positions quand même assez tranchées par rapport aux autres partis, mais malheureusement, vous n'avez pas été en mesure d'élire de députés, donc votre parti ne sera pas n'est pas représenté à l'Assemblée nationale du Québec. D'après vous, quel impact ça peut avoir pour votre parti de ne pas avoir de députés?
Bien, c'est certain que, tu sais, sur le coup, c'est bien décevant. Là, on aurait aimé ça au moins une personne, tu sais, ça aurait été le fun, vu la distorsion là, démocratique, si on veut, là, tu sais, la représentativité des votes est comme absente un peu en ce moment avec le mode de scrutin actuel. Mais là, tu sais, à un moment donné, on peut pas juste s'appuyer sur notre part puis chialer là-dessus. Nous, on le voit plus positif. On se dit on a pratiquement le même pourcentage que les autres partis. Donc, on continue, on va de l'avant. Puis, tu sais, c'est un bon pas, je pense. Puis, on faut solidifier puis repartir les associations puis redéfinir nos priorités, dans le fond, pour éliminer la confusion, parce que on veut que les gens comprennent bien là, c'est quoi qu'on a à proposer, justement.
Puis de façon générale, vous pensez que quels sont les éléments là, qui vont justement permettre au Parti conservateur de se positionner fidèlement par rapport à ses principes ou par rapport à ce que vous proposez? C'est quoi les éléments importants pour vous, là, pour le parti, peut-être, là, au cours des prochaines années?
Bien, je suis beaucoup en ce moment à M. Duhaime, donc on va avoir un congrès, dans le fond, à l'automne prochain pour justement définir plus précisément. Mais les cinq grandes priorités en ce moment, c'est l'économie. Donc, c'est sûr, on veut aider les Québécois pour faire face à l'inflation puis le coût de la vie qui augmente. Dans le fond, ça, c'est comme la priorité. Il y a le système de santé. Dans le fond, nous, on veut additionner la contribution du privé en santé, dans le fond, pour augmenter la concurrence entre les établissements.
Ce qui vous différencie, bien sûr.
Beaucoup. Excusez.
Non, c'est moi qui m'excuse. Cette position-là sur le privé dans la santé vous différencie beaucoup des autres partis. Évidemment, là, c'est une position très particulière au Parti conservateur.
Oui, bien, tu sais, dans le fond, on se base sur les meilleurs pays en la matière, puis en ce moment, on le voit, il n'y en a pas de service, puis je trouve que c'est inquiétant. Tu sais, on paye quand même la moitié de nos impôts qui s'en vont en santé, puis quand on arrive pour aller à l'hôpital, ben on n'a pas de service. Comme en ce moment, on le voit à l'Hôtel Dieu de Sorel, là, les taux d'occupation de 200% et plus. Je veux dire, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes là, en ce moment, puis faire quelque chose parce que ça fonctionne pas le modèle actuel. Là.
Je vous ai interrompu dans la liste des priorités que vous étiez en train de défiler. Les deux autres priorités que vous vouliez nommer, quelles étaient-elles?
Il y avait ben justement la distorsion démocratique qu'on a parlé tantôt. On veut comme adresser le problème là, pour la représentativité des votes. Puis il y a aussi l'exploitation de nos ressources naturelles, particulièrement le gaz naturel. Là. Donc on veut pouvoir avoir une réserve stratégique pour faire face à la crise énergétique. Puis aussi pour être plus autosuffisant au Québec. Là
aussi, vous distinguez des autres formations politiques là, qui parlent beaucoup plus, évidemment, d'énergie plus moins fossile, là, évidemment, là, comme de raison.
Oui, bien, c'est ça. Mais le problème là-dedans, c'est que on le voit pas comme vert, mais finalement, c'est vert de faire ça comme ça. Au lieu d'aller prendre notre pétrole ailleurs, on prend ce qu'on a en dessous des pieds, finalement. C'est beaucoup moins polluant comme ça. Parce qu'on n'est pas encore rendu à pu avoir du tout de pétrole, etc. Donc, c'est le charbon, il y en a encore. Puis nous, on pourrait aider les autres pays dans leur transition énergétique. Puis ça, justement, c'est vert.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire ça comme ça. Là, vous partagez plus sur le continuum gauche-droite. Là, vous êtes plus du côté droit. Vous êtes plus à droite avec la CAQ qui déjà occupe beaucoup d'espace à droite de l'échiquier politique, particulièrement dans la région de Québec. Là, on a vu ce que donnaient les résultats. D'après vous, qu'est-ce qui peut vous permettre de gruger du vote de la CAQ, par exemple, pour augmenter votre appui populaire?
Ben en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes idées là que la CAQ. Là, il y a beaucoup de, tu sais, dans le fond, eux parlent des fois de la santé, mais tu sais, c'est on dirait qu'il y a rien qui avance vraiment, qui est fait concrètement. Tu sais, je trouve que C'est ça. T'sais, nous, on est plus un parti qu'on a envie de prendre le taureau par les cornes, puis tu sais, vraiment changer les choses pour qu'il y ait un vrai résultat, tu sais, pas juste parler de structure, puis finalement, il n'y a rien qui se fait, puis on a encore le même problème des années plus tard.
Marie-Ève Dionne, vous avez été candidate du Parti conservateur du Québec en 2022, aux élections du 3 octobre, il y a 4 mois. Est-ce que vous poursuivez votre engagement à l'intérieur du parti que vous représentiez? Vous réfléchissez peut-être à être là aussi en 2026?
Oui, je dis pas non, mais tu sais, je veux pas me prononcer tout de suite. T'sais. Je veux dire, je dis pas non. Oui, je continue à me tenir informée, puis aussi régionalement. Donc, on verra dans 4 ans, c'est quand même loin, mais pour l'instant, oui, je continue à m'impliquer.
Je peux vous dire que 4 ans, ça demeure court malgré tout. Ça vient vite, les élections, 4 ans. Est-ce que vous voyez, compte tenu du fait que vous avez fait quand même 8% du vote là, le 3 octobre dernier, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rejoint? Vous parliez de l'équipe là, qui était quand même petite au départ. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont rejoint autour du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Richelieu?
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Il y en a beaucoup aussi qui venaient m'écrire. Puis je prenais le temps d'écrire, de répondre à chaque personne là, qui venait vraiment me parler. J'ai bien aimé cette facette-là de savoir, eux, c'est quoi leurs préoccupations, puis ce que moi, je pourrais faire, tu sais, si j'avais été leur voix au Parlement, évidemment. Mais tu sais, il y a rien qui empêche d'écouter puis de soulever là, les points pour les gens de la région. Puis oui, j'ai bien aimé.
Est-ce qu'il y a une association de comté? Est-ce que vous êtes organisé pour le Parti conservateur dans Richelieu? Est-ce qu'il y a une structure militante organisée ou à organiser? Est-ce que ça fait partie de vos projets?
Oui, il y en a une association, mais en ce moment, elle est à rebâtir quand même. Là. Il n'y a pas assez de gens autour, donc c'est là-dessus qu'on va travailler, là. Prochainement, oui.
Et vous avez du soutien du parti, du chef, du parti lui-même dans
un projet
comme ça?
Exactement, oui, j'ai du soutien. On s'écrit, oui, c'est ça. Fait qu'on est en train de mettre ça sur pied pour repartir en force, en fait.
Vous, quels seraient les éléments là, quels sont les éléments qui vous motivent à poursuivre? Pourquoi ça vous intéresse d'être engagé de cette façon-là puis de porter la parole pour le Parti conservateur?
Ben moi, c'est parce que j'y crois en un État. Je trouve qu'un trop gros État qui prend trop de place, c'est pas la bonne solution. Puis pour moi, le Parti conservateur, c'est le gros bon sens. Donc, j'ai envie de m'en aller en ce sens-là. Puis je trouve que les solutions proposées, c'est ce qui fait du sens, c'est ce qui fait du sens pour l'avenir. Là.
Marie-Ève Dionne, ex-candidate du Parti conservateur lors de l'élection du 3 octobre dernier. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et pour cette conversation.
Je vous souhaite une... Ça me fait plaisir. Je suis désolée pour tantôt la panne avec mon téléphone, mais en tout cas...
Ça, c'est les risques du métier, ça. On était au téléphone avec vous. Merci d'avoir pris du temps dans votre journée de travail. Bonne journée, Marie-Ève Dionne.
Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous aussi.
Alors, écoutez, vous voyez que nos représentants dans les différents partis sont encore actifs, ont envie de continuer à participer à la vie démocratique. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec la session parlementaire qui reprend cette semaine, les partis d'opposition auront à travailler fort pour trouver leur place, voir ce qu'ils ont à offrir, puis préparer les 4 prochaines années pour être fin prêt à revenir devant nous, les électeurs, pour solliciter notre appui. Je trouve ça intéressant, après 4 mois après les élections, de parler avec ces candidats-là qui, évidemment, ont moins l'occasion de prendre la parole dans les médias. Je pense que j'espère que vous aurez apprécié l'expérience. Vous savez, les partis d'opposition, là, ils sont importants dans le débat démocratique. Les partis d'opposition, c'est ce qui nous permettent à nous de voir comment le gouvernement, le parti qui lui a été élu par la majorité d'entre vous, comment il se démène par rapport aux enjeux. Les questions qu'il pose nous aident à comprendre leur position. Il n'y a pas de partie gratuite pour les gouvernements, peu importe ce qu'on pense. Alors, c'était l'émission d'aujourd'hui. Vous étiez à tête première à CJSO. Bonne journée!